Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la nouvelle chaîne de podcast destinée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous explorons une nouvelle maladie rare, la cystinose. Et pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Aude Servet. Docteur Servet, bonjour.
Oui, bonjour.
Docteur Servet, vous êtes néphrologue au sein du service de néphrologie transplantation rénale adulte de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris et clinicienne du centre de référence des maladies rénales héréditaires de l'enfant et de l'adulte. Vous êtes également investigateur principal de la cohorte de patients radicaux sur la cystinose et vous avez participé à la rédaction du PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins, sur la cystinose sous l'égide de la filière orchide. Alors, docteur Servet, ma première question est très simple. Qu'appelle-t-on cystinose et qui sont les patients touchés ?
Alors, la cystinose, c'est une maladie autosomique récessive qui touche donc autant les garçons que les filles, qui est une maladie rare puisqu'elle touche 1 sur 100 000 ou à 200 000 naissances en France. C'est lié à une mutation dans le gène qui s'appelle CTNS, qui est le gène qui code pour la cystinosine et qui engendre un défaut de transport de la cystine en dehors du lysosome.
Et quelle est la physiopathologie de la cystinose ?
Alors, la physiopathologie de cette maladie est finalement relativement complexe, car d'une part, il existe une accumulation dans le lysosome de cystine et la formation de cristaux du fait du déficit de ce transporteur, mais la cystinosine a aussi un certain nombre de fonctions bien au-delà du transport de la cystine. On a mis en évidence au cours des dernières années des anomalies dans le phénomène qui s'appelle l'endocytose, dans des phénomènes de stress oxydatif, dans la fonction mitochondriale, dans l'autophagie et plus récemment dans l'autophagie liée à des protéines chaperones. Donc la physiopathologie est finalement complexe et ce n'est pas seulement une accumulation de cystine dans le lysosome.
Alors docteur Servet, maintenant si on s'intéresse aux symptômes, quelles sont les manifestations cliniques qui peuvent faire suspecter une cystinose ?
Alors ça se traduit très tôt dans la vie, vers 4 à 6 mois de vie, par une polyurie, c'est-à-dire des urines abondantes, une polydipsie, c'est-à-dire une soif intense, et un retard de croissance. Il peut s'y associer des troubles digestifs avec des vomissements et puis des déshydratations, et finalement une atteinte osseuse avec un rachitisme. Tout ceci est lié à une tubulopathie proximale, c'est-à-dire au niveau des cellules proximales du tubule rénal, une perte d'électrolytes, des protéines, du bicarbonate, du potassium, du phosphore. L'autre symptôme qui est très précoce, c'est l'atteinte ophtalmologique avec des dépôts dans la cornée de cystine. Ce sont donc les deux principales manifestations qui permettent de faire le diagnostic sur le plan clinique.
Alors, vous nous avez parlé de l'impact rénal de cette maladie. Quel est le pronostic rénal des patients atteints de cystinose s'ils ne sont pas traités ou si le diagnostic est trop tardif ?
Alors, à l'époque où les patients ne recevaient pas de traitement spécifique, effectivement, le pronostic rénal n'était pas bon car il existait initialement cette tubulopathie proximale et puis progressivement s'installait une fibrose et donc une décroissance de la fonction rénale et les patients arrivaient en dialyse vers l'âge de 12 ans. Heureusement, aujourd'hui, avec le traitement spécifique, surtout s'il est instauré très précocement, la fonction rénale est préservée bien plus longtemps.
Alors justement, puisqu'on parle de diagnostic, comment affirmer le diagnostic de cystinose le plus rapidement possible ?
Alors, il y a 3 éléments pour affirmer le diagnostic. D'abord, on peut faire un dosage de la cystine intraleucocytaire. Ce dosage est relativement spécifique et est effectué dans 4 laboratoires en France. Ensuite, de manière peut-être plus rapide et plus simple, on peut faire un examen ophtalmologique, puisque très tôt, l'atteinte ophtalmologique est vue avec un examen à la lampe à fente. Et puis ensuite, on fera également un test génétique, mais les résultats seront obtenus après plusieurs mois.
Et maintenant, si on s'intéresse à la prise en charge de ces patients, une fois qu'ils ont été diagnostiqués, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ?
Alors, il y a 2 pans pour le traitement. D'une part, le traitement symptomatique. Et donc, on commence par le traitement symptomatique du syndrome de Fanconi, avec une hydratation et des apports en électrolytes, potassium, phosphore, bicarbonate, sodium, également de la vitamine D. Ensuite, on peut également, pour ce syndrome polyuropolydipsique, donner de l'indométacine chez l'enfant, qui va diminuer ses symptômes, diminuer la perte d'eau et de sel. Et ce traitement sera interrompu plus tard dans la vie. Et puis, d'autre part, il existe un traitement spécifique qui va permettre de dépléter la cystine des lysosomes. Et donc, de fait, quand on aura une association du traitement spécifique avec la cystine, les molécules vont sortir non pas par la cystinosine, mais par la lysine. Et on va pouvoir, de ce fait, dépléter les lysosomes en cystine. Ce traitement sera débuté le plus précocement possible et à poursuivre toute la vie. Il existe également un traitement spécifique de l'atteinte ophtalmologique sous forme de gel qu'on va appliquer directement dans l'œil.
Alors, dernière question, docteur Servet, la prise en charge de ces patients fait intervenir différents professionnels de santé, eu égard à la multiplicité des symptômes. Comment coordonner cette prise en charge multidisciplinaire?
Initialement, la maladie est principalement rénale et fait intervenir le néphrologue. Puis progressivement, dans la mesure où les patients évoluent vers l'insuffisance rénale terminale et la dialyse, vont intervenir d'une part un médecin spécialisé en dialyse et d'autre part un néphrologue spécialisé en transplantation. Et c'est à cette époque que vont peut-être apparaître des complications extrarénales. D'une part, la thyroïde, et donc on aura recours à un endocrinologue pour être conseillé à ce sujet. D'autre part, il y existe un risque de diabète, et là encore, un endocrinologue ou un diabétologue va être nécessaire pour être conseillé. D'autre part, les patients à l'âge adulte peuvent développer des complications neuromusculaires, voire neurologiques centrales. Et donc, il sera utile de mettre en place une collaboration avec un neurologue qui s'intéressera plus particulièrement à cette pathologie. Et enfin, à un âge plus avancé, certains patients vont présenter des problèmes de dépendance. Et donc, tout un réseau social en particulier va être mis en place et éventuellement, bien sûr, un soutien psychologique. Donc, il est effectivement très important pour le médecin coordinateur, qu'il soit néphrologue ou d'une autre spécialité, de s'entourer d'un réseau de spécialistes compétents dans la pathologie.
Eh bien, merci mille fois, docteur Servet, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la cystinose. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la compréhension de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses ressources sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur la cystinose où on abordera cette maladie du point de vue du pédiatre cette fois. À très vite.